Moi, j'aurais bien aimé que ce soit Elias qui prêche ce matin. Mais bon, il prêchera dimanche prochain. Mais j'ai beaucoup aimé quand je l'ai entendu. J'avais l'impression, je sais pas vous, mais j'avais l'impression que c'était l'apôtre Paul qui venait raconter ce qu'il avait vécu. Non? Et on a du mal à imaginer que ce qu'il nous racontait, c'était en cours. En train de se dérouler dans notre pays. Parce que c'est vrai que les médias ne nous parlent pas du tout de tout ça, alors que ça nous réjouirait. Alors, le sujet que j'ai eu sur le cœur ce matin, je l'ai depuis pas mal de temps sur le cœur et je l'ai laissé mûrir. J'ai fait quelques recherches pour le préparer ce matin. Et le titre. C'est pas évident de trouver un titre, mais j'aurais envie de dire, quelle heure est-il? Quelle heure est-il ce matin? Alors vous me direz, bah ouais, ben il est 11h10. Non, quelle heure est-il dans l'histoire de l'humanité? Où est-ce qu'on se situe? Alors on ne va pas aller mettre une date précise, je sais, on est bientôt en 2016, mais ce n'est pas de cette date-là dont je veux parler. C'est où est-ce qu'on en est dans l'histoire du monde par rapport au retour du Seigneur. Alors, je ne vais pas vous apprendre grand-chose parce qu'on entend beaucoup. Vous vous posez sûrement des questions en entendant tout ce qui arrive dans notre monde. Mais on va essayer de prendre plusieurs événements et les rapprocher de la Bible ensemble pour voir. Ah ben oui, et on va trouver qu'il y a quand même beaucoup de points communs qui vont nous amener à nous dire l'heure approche. Le Seigneur s'apprête à revenir. Alors ne vous attendez pas à ce qu'on calcule la date de son retour. On ne la connaît pas. Seul le Père la connaît. Le Fils ne la connaît pas. Mais tout laisse à penser qu'on est en train de s'en approcher. Et on va regarder ensemble des choses, beaucoup, pas mal de choses. Alors on va, il y a moyen de les survoler très vite. Il y a moyen de s'y arrêter, de prendre du temps. Bon, ce matin, on va se situer un peu entre les deux. Après, je prétends pas non plus être un connaisseur en la question, c'est horriblement compliqué. Je sais pas si vous avez déjà essayé de lire les prophéties. Il y en a beaucoup dans la Bible, hein. C'est assez bien disséminé partout. Il y a l'Apocalypse de Jean aussi, et c'est terriblement compliqué de se dire, ah, ça, c'était à tel moment de l'histoire, tel moment connu, ça, c'est à venir, ça va se dérouler avant telle chose, parce que quelquefois, on a l'impression que c'est une description chronologique. Quelquefois, on se dit, mais non, c'est pas chronologique. C'est vrai qu'on s'y perd et ne comptez pas sur moi pour éclairer votre lanterne là-dessus. Je ne suis pas du tout compétent. Mon objectif ce matin, c'est de se rapprocher, de faire des rapprochements de ce qu'on voit, de ce qu'on vit de nos jours avec ce que la Bible dit. Parce que ça, on est quand même beaucoup plus sûr de ne pas se tromper. Voilà. En fait, cette idée de partage de ce matin, je l'ai eue sur le cœur c'était en octobre, hein, octobre-novembre, en lisant les infos, en lisant un phénomène. Bon, j'aime beaucoup la nature, vous le savez, et je suis toujours attiré par ce qui se passe dans la nature, déjà dans le tous les jours, hein, j'aime beaucoup admirer la nature. Je peux passer des heures. Admirer un beau paysage, admirer une magnifique plage, de l'eau turquoise, un ciel bleu, les étoiles, l'astronomie, la montagne. Et quand il y a des phénomènes qui sortent de l'ordinaire, forcément, ça m'attire aussi. Et il n'y a pas longtemps, il s'est quand même passé quelque chose qui se produit tous les ans dans un désert, le désert d'Atacama au Chili. Et en fait, cette année, comme tous les ans, il fleurit, il se met à fleurir. C'est un phénomène connu. C'est un désert extrêmement aride. Et tous les ans, il y a un moment où il se met à pleuvoir et on croit que tout est mort, qu'il n'y a pas de vie. Mais en fait, il y a des graines. Et ça, c'est le mystère de la nature, hein, que Dieu a créé. Il y a quand même des graines. Et comme elles sont arrosées à un moment, elles se mettent à germer, à pousser. Et le désert se couvre de superbes fleurs. Et vous pouvez taper sur Internet, hein, Chili, désert d'Atacama, Atacama, c'est facile à retenir. Et vous verrez que il a fleuri. Mais en fait, ce qui est bizarre cette année, et ce qui n'arrivait jamais, c'est qu'il a fleuri deux fois. Et ça attire des milliers et des milliers de touristes. Hein. Évidemment, il y a le lobby touristique et financier qui se met derrière, qui ne s'oublie jamais. Et donc, il y a quelque chose comme 200 variétés différentes de fleurs qui se sont mises à pousser. Et cette année, ça a fleuri deux fois. Alors, pourquoi deux fois ? C'est pas, la raison n'est pas parfaitement connue. Hein. On est en train de vivre des moments climatiques où l'homme maîtrise mal ce qui est en train d'arriver. Mais il pense que c'est le phénomène El Niño. Vous en avez sûrement entendu parler, on entend beaucoup parler. Donc un phénomène d'eau chaude en surface dans l'océan Pacifique, aux alentours de l'équateur, qui vient se réfugier contre la côte de l'Amérique du Sud, qui génère donc beaucoup d'évaporation. C'est de l'eau qui est à peu près 2 degrés plus chaud que le reste. Ça génère beaucoup d'évaporation et donc des nuages, et donc des précipitations et de la pluie, et puis ça arrose le désert. D'habitude, ça ne se trouve pas là. C'est cette eau, mais on entend quand même parler beaucoup de réchauffement climatique. Et donc l'eau, elle arrive là, et elle s'évapore, et ça produit de la pluie. Et cette année, il y en a eu beaucoup plus. Il y a même eu des morts à cause d'inondations dans cette région, qui est habituellement pourtant très aride. Et voilà, mais moi quand j'ai entendu un désert qui fleurit, un désert qui... Je me suis dit, mais ça dans la Bible, c'est marqué quelque part. Je ne savais plus trop où, alors j'ai cherché. Et puis, bah oui, effectivement, dans Joël 2:22, il est bien question d'un désert qui reverdira. Et ça, c'est situé à la fin des temps. Alors, vous me direz, bah oui, mais ça, c'est un phénomène qui se produit tous les ans. Mais c'est produit une deuxième fois cette année. Et ce n'est pas du tout habituel. Et ça ne se produit que dans deux déserts. Mais comme le phénomène s'accentue, ça va bien peut-être s'étendre aussi à d'autres déserts. Et ce qui est écrit dans Joël, et je vous propose d'aller le lire ensemble, dans Joël 2:22, Joël 2:22, alors je sais, c'est un livre qui n'est pas sympa à aller trouver. Il n'y a pas beaucoup de pages, alors ce n'est pas comme les psaumes qu'on peut ouvrir et bon, on a beaucoup de chances de tomber dessus. Joël, c'est un peu plus caché. Hein, alors, je vais vous lire, si vous n'arrivez pas à le trouver, je vous le lis. « Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leurs richesses. » On va continuer. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. » Car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de moût. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez. C'est quand même un phénomène qui est écrit dans la Bible. Le désert, les déserts reverdiront. Et qui sait si ce qu'on est en train de vivre ne va pas s'étendre à d'autres déserts et qu'on verra l'accomplissement de ces déserts qui reverdissent. Alors, je voulais rapprocher toutes ces prophéties. On ne va pas toutes les parcourir du tout, hein, mais toutes ces prophéties qui parlent du retour de Jésus-Christ avec celle de Noël, qui vient, dont on vient de fêter, qu'on vient de fêter. Noël qui est, c'est pas le Père Noël, on a été accueillis par un Père Noël, mais Noël, c'est pas ça. Dans notre monde aujourd'hui, c'est vrai qu'on a instauré, le monde a instauré le Père Noël pour masquer, pour faire oublier la réalité de Noël, de cette fête qui est l'anniversaire de la naissance de Jésus. Le vrai Noël, c'est celui-là. Et aujourd'hui, on le sait, il est en train, c'est une fête qui est devenue complètement mondaine et notre société a anéanti quelque part cette image du sauveur qui est né au point que les crèches deviennent interdites. Vous vous rendez compte quand même du scandale de l'histoire. C'est quand même fou de là où l'être humain en est arrivé. Le vrai Noël, à l'origine de l'histoire, est en train de devenir interdit. Et ça, quand même, c'est fou comment l'être humain arrive à déshabiller l'histoire et à lui donner un nouveau vêtement comme il l'entend. Mais de la même façon qu'il y avait beaucoup de prophéties qui parlaient de la première venue de Jésus, de sa naissance, et on pourrait aller lire dans Michée 5.1, donc quelques pages au-delà de ce qu'on vient de lire dans Joël, Michée 5.1, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » La naissance du Sauveur était annoncée déjà il y a très longtemps dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et elle est arrivée. Ça s'est produit parce que c'est Dieu qui avait prononcé ces paroles, c'était écrit par les prophètes, inspiré de Dieu, et ça s'est accompli. Et exactement de la même façon, toutes les prophéties qui parlent du retour de Jésus-Christ vont et sont en train de se produire, et de façon aussi sûre que Jésus est né un jour pour venir nous sauver, de la même façon, il est aussi certain qu'il reviendra nous chercher. Et que le monde y croit ou que le monde n'y croit pas, ça se produira. Qu'on y croit ou pas, Jésus reviendra un jour. Et le monde essaie de le faire oublier, de faire oublier sa première venue, mais il ne pourra jamais effacer la parole certaine de Dieu qui a promis que son fils reviendrait chercher son épouse, l'Église, dont nous faisons partie. Et il est donc certain que ce Jésus va revenir. Et Jésus, justement, quand il était sur la terre, dans Matthieu 24, 32, il a parlé des événements qui précéderont son retour. Et il a dit à ses disciples qui l'ont questionné. Et ses disciples voulaient savoir, mais comment on va le savoir? Comment on va reconnaître? Qu'est-ce qui va se passer avant que tu reviennes? Et donc Jésus leur a parlé de plein de choses sur lesquelles on va s'arrêter dans pas longtemps. Mais je voudrais d'abord introduire par ça. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Et ça, je l'aime bien cette comparaison. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. On sait tous reconnaître quand l'été va arriver, même si ici c'est vrai qu'on aimerait le voir mieux arriver. Il se fait appeler Désiré, quelquefois même il n'est pas passé tout court. Mais quand tout fonctionnait bien, on le savait, on regardait, on voyait les bourgeons, les feuilles. On savait que, bah oui, les fleurs arrivent. Ça y est, l'été arrive. Moi, c'est une saison que j'attends vraiment, à laquelle je tiens beaucoup. Et Jésus, il a justement choisi aussi cette saison. C'est pas pour moi, hein. Mais, bah oui, c'est un repère. Il y a des repères, il y a des signes avant-coureurs. Et quand on regarde la nature, quand on regarde toutes ces petites choses qui se mettent à éclore, à arriver, peu à peu, à s'accentuer de plus en plus. Ah, l'été arrive. Et quelles sont toutes ces choses que Jésus a parsemées, a données à ses disciples? Alors, il faut aller les chercher dans Matthieu, ça, vous savez, Matthieu 24, Luc, dans Marc aussi, enfin, dans tous les évangiles, il y en est question. Certains donnent des précisions que ne donnent pas d'autres, et ils sont tous complémentaires, et c'est super. Et on va en parcourir quelques-uns. Alors, par exemple, les déserts qui refleurissent, c'est quand même exceptionnel. Le fait de fleurir deux fois, ça même les médias le disent, c'est quand même bizarre. Et si on continue, dans Luc 21, on va prendre le temps de le lire. Donc Luc chapitre 21, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Alors pour l'instant, on n'en a peut-être pas encore trop vu. Mais en tout cas, écoutez la suite, et là moi je trouve que c'est vrai, ça devient vraiment actuel. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de réchauffement climatique, et on le voit. On n'a jamais vécu un Noël aussi chaud que celui qu'on vient de vivre. Ce que vous lisez dans les médias, l'année 2015, c'est la plus chaude de toute l'histoire moderne. Jusque-là, on entendait, ah, il faut remonter à 1950, 1930, 1920 pour retrouver ces phénomènes. Aujourd'hui, on ne trouve même plus jusqu'où il faut remonter. C'est les premiers relevés de température vers 1880 ne donnent même pas les relevés qu'on a aujourd'hui. Et donc, on assiste quand même à un changement qui n'existe, qu'on n'a jamais vu. Depuis qu'on fait des mesures, on ne l'a jamais vu. Donc, on ne peut pas le contester. Alors, on n'est pas tous d'accord sur l'origine de ce réchauffement, de ce qui a produit, de ce qui est en train de produire ce réchauffement. Mais c'est sûr, il y a quelque chose de pas normal qui est en train de se passer au niveau du climat, au niveau de la nature, au niveau des températures, au niveau de la température et donc aussi du niveau de la mer qui monte, on le sait, il est en train de monter. Il est incontestable que les glaciers en Antarctique et en Arctique sont en train de fondre. Vous regardez tous les glaciers qui sont sur Terre un peu partout dans le monde, dont un qui est connu chez nous au Mont Blanc. Il a perdu 3 mètres l'année dernière et c'est énorme. Tout est en train de fondre et le niveau de la mer est en train de monter à cause de la fonte des glaces, mais aussi à cause de la dilatation parce que l'eau, vous savez, quand elle monte en température, elle se dilate et du coup, tout l'ensemble se met à monter. Et justement, qu'est-ce que nous dit la Bible ? Il y aura de l'angoisse parce qu'on ne saura plus que faire au bruit de la mer et des flots. À l'époque, on ne savait peut-être pas, on pouvait se dire, ça va peut-être ressembler un peu à un déluge, peut-être un tsunami, mais qui sait s'il n'y en aura pas encore d'autres, il y en a eu des très puissants. Mais au bruit de la mer et des flots, ben cette mer qui monte, vous ne trouvez pas que c'est angoissant ? Ah, peut-être pas trop pour nous, parce qu'on est quand même pas mal à l'intérieur des terres, mais allez demander à l'avis de tous ceux qui habitent au niveau des côtes, dans les régions pauvres dans le monde, qui vont être les premiers touchés, qui sont en train d'être touchés. On construit des digues pour essayer de freiner la montée de l'eau, mais ça semble tellement inexorable. C'est en train de monter, et tous ces peuples qui sont là sur ces régions, allez les voir. Allons les voir et demandons, posons-leur nos questions. Comment vous vous sentez ? Je ne suis pas sûr qu'ils se sentent bien. Parce que c'est leur vie, c'est leur terre, c'est leur maison, c'est tout ce qu'ils ont. Ils savent que ça va se trouver envahi par l'eau. Des îles vont disparaître. Il y a plein de... Toute la face, tout ce visage de la terre, ce contour des continents... Et va changer parce que l'eau va monter. Et vous savez que vous dites peut-être, comme moi quand j'étais plus jeune, bon, 1-2 cm, franchement, c'est pas la fin du monde. Mais si, quand vous regardez sur une plage qui est vachement plate, 1 cm, ça veut dire beaucoup de mètres en longueur, parce que la pente, elle est quand même pas si élevée que ça. Et donc, une élévation de quelques centimètres, c'est la mer qui avance de plusieurs mètres sur la terre, et c'est catastrophique. Et ça, c'est un verset qui est à mon avis actuel. L'angoisse parmi les nations, parce qu'on ne saura plus que faire au bruit de la mer et des flots. Vous vous rendez compte, les hommes rentrent dans l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Alors, on a eu la COP21 il n'y a pas longtemps, beaucoup de blabla, beaucoup de promesses, beaucoup d'engagements, mais ce blabla, on l'entend depuis déjà pas mal de temps. Et on a l'impression que quoi qu'on fasse, ça s'aggrave. Et les pires prévisions de l'époque ne sont même pas assez mauvaises. Ils sont obligés de les réviser en encore plus mauvaises parce qu'on est encore plus mauvais. Et vous savez tous, par exemple, on doit limiter les gaz à effet de serre. Vous avez tous entendu parler de scandale des moteurs truqués, mais en fait, tous les véhicules polluent beaucoup plus qu'on ne le pense. on fait les tests d'émissions de CO2 à un certain moment, dans un certain environnement, et tous les constructeurs se sont arrangés pour que, à l'endroit, dans les conditions du test, ce soit conforme à ce qui est attendu. Mais quand vous roulez dans la vie de tous les jours avec vos voitures, on émet beaucoup plus de pollution que ce qui est prévu. Et les calculs d'émissions de CO2 sont basés sur les moments où tout est gentil, où tout est beau. La réalité, elle est beaucoup plus mauvaise. Ce qui fait qu'on s'écarte considérablement des plus mauvaises prévisions. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on nous dise, on est en train d'aller vers ces phénomènes qui vont sûrement encore s'amplifier et s'accroître. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore vu des hommes qui rendent l'âme de terreur. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là, mais c'est écrit dans la Bible. Alors forcément, on y arrivera. Et ce sera terrifiant, parce que pour rendre l'âme de terreur, il ne faut pas assister à quelque chose de beau et d'angélique, c'est quelque chose de terrifiant. Alors je ne veux pas nous affoler, hein. À la fin, on verra que nous, on n'a pas de raison de s'affoler, mais c'est sûr que ce sera difficile. Et c'est écrit dans la Bible, ça va forcément s'accomplir. On va continuer toujours dans Matthieu 24, hein, c'est tous les versets qui précèdent la parole de Jésus qui a dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. » Quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que j'arrive. Et quelles sont toutes ces choses? Ben juste avant, il a parlé des guerres et des bruits de guerre. Je sais pas, vous n'avez pas l'impression, n'avez pas l'impression qu'il y a des guerres et des bruits de guerre dans notre monde? Oh, vous me direz, bah ouais, mais il y en a toujours eu. Mais il y en a quand même de plus en plus. On se sent de moins en moins en sécurité. On a aujourd'hui des attentats, c'est pas la peine de revenir sur les attentats de Paris. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Jésus nous l'a dit. Et s'il était là ce matin avec nous, il nous le rappellerait. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Je suis en train de lire, hein, dans Matthieu 24, 6. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Regardez un peu l'actualité. C'est chaud en ce moment. Quand on voit ce qui se passe en Syrie, les États-Unis qui interviennent là, notre pays aussi, d'autres pays de l'Europe, la Russie qui est là, vous n'avez pas l'impression que par moment on se dit, on dirait que on a les graines d'une troisième guerre mondiale qui arrive. Vous n'avez pas cette impression-là? Ça va peut-être pas éclater comme ça, hein, j'en sais rien. Mais ça donne pas l'impression que c'est une nation qui s'élève contre une nation, un royaume contre un royaume, et que pour pas grand-chose, il suffirait de pas grand-chose en plus pour qu'il y ait un énorme conflit qui se déclenche. La Première Guerre mondiale, toutes ces petits phénomènes, là, ces petites choses qui étaient en même temps, se mélangent. On a l'impression que c'est un peu le même genre de mélange qui est là et qui ne demande qu'à exploser. Alors on contient, ça tient, mais pour combien de temps encore? Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il n'y a pas de famine de nos jours. Le modernisme a réussi à vaincre la faim dans le monde. Plus de tremblements de terre non plus. On en entend régulièrement et on a l'impression, c'est vrai, bon, il y a l'effet médiatique aussi, qui fait que comme on parle beaucoup plus de ce qui ne va pas, ça peut aussi déformer la réalité. Mais quand même, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus et les relevés le montrent. Et Jésus nous a dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ce n'est que le début. Alors, et là c'est un verset moins réjouissant. Je pense à Elias avec ses versets tout à l'heure. Hein. Un verset pas bien. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça, c'est un verset qu'on n'aime pas. Hein. On vous livrera au tourment. Et aujourd'hui, si on regarde, il y aura bientôt l'index de persécution mondiale qui va être publié début janvier. N'ayez pas l'impression que ça gagne, qu'il y a de plus en plus de pays dans lesquels, parmi lesquels, il ne fait pas bon d'être chrétien? Si, ça augmente. Notre pays, il est encore épargné, mais on voit quand même qu'il y a des graines qui sont en train d'arriver. Hein. La religion d'État, la laïcité, est en train de s'affirmer davantage. Et c'est d'ailleurs au nom de cette même laïcité que les crèches commencent à être bannies. Alors que Noël, quand même, j'en ai parlé au début, Noël, quand même, zut, c'est la naissance de Jésus. C'est rien d'autre que ça. Mais les graines commencent à se semer, on insère de plus en plus, on retire tout ce qui vient de la chrétienté. Et ça nous amènera peut-être un jour aussi dans notre pays à ce qu'on soit livré au tourment et qu'on nous fera mourir parce qu'on sera indésirable, en désaccord complet avec ce que le gouvernement mettra en place. On ne sait pas si ça arrivera dans notre pays. Mais en tout cas, si on regarde dans les autres pays, ailleurs, on se rend compte que quand même l'index de persécution mondiale est en train de s'étendre. Alors aussi, plusieurs se succomberont et ils se haïront, se trahiront les uns les autres. Plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et écoutez ça. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous n'avez pas l'impression que dans notre monde, l'iniquité, le péché, le mal est en train de s'accroître. Et parce qu'il s'accroît, l'amour, la compassion est en train de disparaître. C'est un peu comme les vases communicants. Vous n'avez pas cette impression que c'est ce qui est en train d'arriver? Et quand on pense à l'iniquité qui se sera accrue, moi ça me fait penser à Sodome et Gomorre. Le poids du péché, la hauteur a atteint l'oreille de Dieu. Et il est descendu pour voir et pour sanctionner. On n'avait pas l'impression que notre monde, le péché est en train de s'accumuler, de grandir. Et à un moment, il y aura un terme à ce royaume du péché. Jésus va revenir. On pourrait lire aussi dans 2 Timothée. Sache que dans les derniers jours, 2 Timothée 3:1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça décrit quand même bien notre monde. Hein. Vous ne trouvez pas que ça colle quand même pas mal? Et ce ami de l'argent, je voudrais qu'on s'y arrête un peu et qu'on médite courtement sur notre modèle économique. Le modèle, on va prendre celui de la France, mais on pourrait prendre celui de l'Europe. Notre modèle est le comparer au premier modèle, je vais me permettre de le dire quand même, premier modèle économique au temps de la Bible, instauré par la loi de Moïse. Si on essaye de faire une comparaison entre les deux. Au temps de Moïse, il fallait que tout le monde apporte la dîme. Il y avait 12 tribus et il y en a une qui était consacrée à l'Éternel. Et cette tribu, elle vivait de la dîme en fait. Hein? La dîme que donnaient les 11 autres tribus. Donc elle vivait avec 11 dîmes. Et tous les autres donnaient donc la dîme de tout ce qu'ils gagnaient. Et c'était tout. Regardez notre modèle économique d'aujourd'hui. Vous achetez quelque chose, 20%, ça fait 2 dîmes de TVA. Vous gagnez 1000 euros, l'État touche 1000 euros, 100%, ça fait 10 dîmes. Hein, j'ai cherché, hein. Votre employeur, pour vous donner 1000 euros, il doit donner 820 euros de charges à l'État, mais quand vous touchez 1000 euros net, vous vous êtes fait déduire à peu près 20%. Des 1200 que vous aviez pour avoir les 1000, donc vous les ajoutez à ces 820, on arrive à peu près en gros, hein, que pour vous donner 1000 euros, l'État touche aussi, lui, 1000 euros. Ça fait 10 dîmes. Vous vous rendez compte? Quand vous faites le plein avec de votre voiture, vous donnez 8 dîmes à l'État. Il y a à peu près 80% de taxes et ça va encore monter là en janvier. Bon, on n'est pas là pour refaire le monde, mais pour comparer. Amis de l'argent. Les hommes seront amis de l'argent. Et c'est vrai que ceux qui nous gouvernent, ils aiment l'argent. Et on est ponctionné de tous les côtés. Vous devez avoir ce sentiment comme moi. Mais quand vous comparez ce qui était fait à l'époque, instauré par, voulu par Dieu, qui était quand même un équilibre beaucoup plus juste, si vous comparez avec aujourd'hui, ce n'est pas une dîme hein, qu'on donne à ceux qui nous gouvernent. Alors je sais, il y a des allocations, il y a une sécurité sociale, il y a des retraites. Mais à l'époque du temps d'Israël, il y avait aussi quelque part une retraite par la solidarité au sein des familles. C'était aussi auprès des souverains sacrificateurs qu'on venait, ça faisait un peu les médecins, la sécurité sociale. Il y avait quand même un super système instauré par Dieu qui ne dépouillait personne, qu'on n'a pas du tout. Aujourd'hui, on est à des années-lumière de ce modèle. Et on va revenir sur l'iniquité. Quand l'iniquité se sera accrue, la charité, parce que l'iniquité se sera accrue, l'iniquité, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est quoi l'iniquité? Qu'est-ce qu'on peut voir dans notre monde aujourd'hui? Ben, l'iniquité, c'est le péché. Le péché, c'est manquer le but. C'est ne pas vouloir de Dieu. C'est quelque part l'abandon, l'arrachement de tout ce qui vient de Dieu. Hein, l'œuvre du malin, c'est ça, c'est de retirer tout ce qui vient de Dieu, de le remplacer par un mensonge. Et justement, dans 2 Timothée 4:3, il est question que « car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et notre époque, quand même, elle est championne en création de fables. Et on va en parcourir quelques-unes, si vous ne voyez pas de quoi je parle. Par exemple, la fable, bon, surtout je ne veux pas que vous preniez mal ce que je vais dire, il ne faut rien exagérer, je veux vraiment ajuster, la fable de la protection de l'enfance. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais en mars 2015, la France a été condamnée par le Conseil de l'Europe parce que la France n'a pas voulu inclure dans sa législation l'interdiction de la correction physique des enfants. Le Conseil de l'Europe réclame l'abolition de la correction physique des enfants parce qu'il y a des enfants battus. Alors c'est vrai, je ne suis pas en train de dire qu'il faut battre les enfants, mais cette fable de la protection de l'enfance, c'est vrai, il ne faut pas, c'est intolérable les enfants battus. Mais de là, aller interdire la correction physique, est-ce que ce n'est pas exagéré? Je suis dans l'enseignement, et il y en a d'autres qui le sont aussi. Mon épouse, elle est nounou, elle a des enfants aussi. Et vous voyez tous que les enfants, leur gentillesse, leur façon d'être, c'est de mieux en mieux. Ils obéissent de mieux en mieux, vous devez le constater. Hein? Ben oui. Aujourd'hui, l'enfant, il est roi. On n'a plus le droit de le toucher. Il ne faut surtout pas lui donner une fessée. Parce que c'est le martyriser, c'est un sévice, c'est le dégrader, c'est l'avilir, c'est mauvais. Alors il faut lui parler, il faut lui expliquer que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Et que, il devrait quand même plus tôt, mais il faut l'amener à réfléchir. Il ne faut surtout pas lui donner une fessée, ce n'est pas bon. Que dit la Bible? Je l'avais noté. Dans Proverbe 23:13, « N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, du bâton, il ne mourra point, et en le frappant de la verge, tu délivreras son âme du séjour des morts. » Ça ne veut pas dire qu'il faut taper nos enfants. Hein. Mais quand même, l'enfant est un enfant. il ne peut pas réfléchir au moyen terme, au long terme. Tout ce qu'il voit, l'enfant, c'est que, ben oui, si on lui met une bonne correction physique, ah, il va se souvenir, j'ai fait ça, ça m'a coûté ça, je vais m'en souvenir. Vous lui expliquez, il va mettre des années à comprendre et il ne comprendra peut-être jamais. Et c'est une nécessité, c'est biblique. Et je ne suis pas en train de défendre, ne prenez pas en défaut, de frapper constamment nos enfants, de les gifler, tout ça, non. Mais la correction physique, c'est quelque chose de normal et de biblique. Et aujourd'hui, essayez d'en parler en public et vous allez voir. Mais en tout cas, dans nos classes, on constate bien qu'il y a eu un grand changement dans le public qu'on a. Les enfants sont beaucoup plus difficiles à gérer. Et ils savent très bien qu'on ne peut pas les toucher. Ils le savent. Et ils le disent. « Tu n'as pas le droit de me toucher !» Alors, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que de toute façon, leur côté physique, on ne va pas y toucher. Et pourtant, c'est une chose qui fonctionne. Moi, mes enfants, ils ont tous eu des fessées à un moment ou à un autre. Et ils s'en souviennent. Et ils reconnaissent que c'était nécessaire. C'est normal. Moi, j'en ai reçu aussi, je vous assure. Et ça m'a servi. Mais regardez les enfants d'aujourd'hui. La société dans laquelle on vit, où on n'a plus de repères, où le respect de l'autorité a été oublié. Et ça, on le voit quand ce sont des enfants. Quand ces enfants deviennent des adultes, ils ne sont plus dans les écoles. Ils ont affaire à Pascal, à la police. Et Pascal s'arrache les cheveux. Parce que c'est affreux. Ce sont des gens, il y a manqué quelque chose dans leur éducation. Ils n'ont pas acquis les repères. Et vous savez, ces parents, ces enfants, quand ils deviennent parents, vous imaginez les enfants, comment ils les éduquent? Et vous voyez que de génération en génération, notre société dérive complètement. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Et c'est vraiment, c'est inquiétant. On pourrait parler aussi de la fable, mais la fable de la réinsertion des criminels. Ben oui, écoutez, bon d'accord, ils ont tué, ils ont violé, mais il faut les aider à se réinsérer dans la société. Alors il ne faut pas les enfermer en prison. Il faut leur permettre de reprendre une vie normale, il faut leur faire des remises de peine. Mais vous avez entendu les attentats, il y en a pas mal qui devaient être en prison de tout cela. Il y en a beaucoup qui ont reviolé, qui sont des multirécidivistes, qui auraient dû être en prison et qui n'y étaient pas au nom de cette fable. Et il y en a plein qui ne se sentent plus du tout en sécurité. J'ai déjà lu un témoignage d'une femme qui avait été violée et elle savait que son violeur, il avait été libéré et qu'il habitait pas loin de chez elle. Mais cette personne n'a pas changé, c'est toujours la même. C'est la société dans laquelle on vit. Et que dit la Bible dans Proverbes 17:15 ? Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Donc notre système de justice, il est en abomination à l'Éternel parce qu'il absout le coupable. On ne va pas dire encore qu'il condamne le juste, mais quelquefois on a l'impression que finalement il fait meilleur à être un délinquant qu'à être quelqu'un de solvable. Vous n'avez pas ce sentiment-là? Peut-être pas encore aussi prononcé, mais on dirait qu'on est en train d'y aller. Mais on vit dans une société qui a quand même sacrément l'air d'être montée à l'envers. Vous parlez avec des gens du monde, je ne vous demande pas avec des chrétiens, ils vont eux-mêmes vous dire, mais on marche sur la tête. Notre monde, il est à l'envers. Mais il ressemble à ce qui est marqué là. On va continuer dans les fables. La fable de l'égalité des droits pour les homosexuels. Quoi donc? Les hommes et les femmes mariés ont le droit d'avoir des enfants. C'est comme ça depuis des lustres. Pourquoi pas les homosexuels? Pourquoi ce serait différent? Alors évidemment, la nature ne plaide pas en leur faveur. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ce n'est pas possible. C'est contre nature. Mais alors, il faut en adopter, il faut passer par la GPA. Et la fable du droit. On a le droit d'avoir des enfants. Je dis on, je ne parle pas en leur nom. Que dit la Bible? Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. L'homosexualité, c'est une abomination. Et notre monde est peu à peu, notre société est peu à peu en train d'essayer de nous faire adopter l'homosexualité comme étant quelque chose de normal. Je ne suis pas du tout série de films et tout télévisé, je n'ai aucune connaissance cinématographique et ça ne m'attire pas du tout. Mais j'entends des chrétiens, je ne les critique pas, on a chacun des centres d'intérêt différents, qui suivent les séries et qui disent « Bah ouais, maintenant il y a des homosexuels dans toutes les séries presque. » Et ils sont présentés comme des gens tout à fait normaux, gentils, ben c'est normal de leur donner des droits. Et c'est ainsi que peu à peu, on oublie les repères. Peu à peu, notre société s'enfonce dans l'iniquité, dans le péché, et ce qui était une abomination avant devient quelque chose de beau et de normal aujourd'hui. D'ailleurs, bon, je sais bien qu'elle est assez maladroite, mais il y a une ancienne ministre, vous l'avez peut-être entendu, qui, elle, continue de dire. Bon, je sais bien qu'il y a des maladresses, c'est dommage. Mais elle a continué d'affirmer que l'homosexualité, c'est une abomination. Elle a été condamnée à 5 000 euros d'amende. Hein. Ah, et ouais. C'est fou, hein. Où est-ce qu'on en est arrivé? C'est la société dans laquelle on vit. C'est le monde dans lequel on vit. La Bible préconise une direction. Notre monde va rigoureusement dans l'autre direction. Le diable va exactement à l'opposé de ce que Dieu a instauré. On pourrait continuer. La fable de la théorie du genre. Pareil, vous êtes tous nés, venus au monde avec un sexe, féminin ou masculin, mais d'après cette fable, vous n'êtes pas du tout obligé d'être esclave de ce sexe avec lequel vous êtes né. Vous pouvez décider de vivre à la façon d'une femme, même si vous êtes né en tant qu'homme, ou inversement. Il n'y a aucun problème. Ouais. Vous vous rendez compte la fable d'aujourd'hui? Et c'est en train d'arriver sur le terrain, dans l'école. Bon, il y a eu beaucoup de protestations, hein. Je me rends compte que ils sont revenus un peu en arrière, mais pour, soyez sans crainte, ils vont revenir. On a regardé une publicité il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, ça cause des remous, hein, avec les jouets. Il n'y a pas de jouets garçons et de jouets de filles. Il y a des jouets, point barre. Et tout le monde peut jouer avec n'importe quel jouet. Parce que si les filles jouent avec des jouets de filles, en fait, c'est parce que nous, on a inculqué à la fille, on l'a obligée à jouer avec des jouets roses ou de jouer à la poupée. Et les garçons les a obligés à jouer seulement avec des voitures, des garages et des outils. C'est nous qui sommes des tyrans. Ces pauvres enfants, il faut les laisser libres. Mais laissez en vrai jouer des enfants. Isabelle a un petit garçon. Nounou à la maison, on ne l'a influencé en quoi que ce soit. Bah, je peux vous assurer, il joue aux autos, il joue au garage. Alors, il peut exister des exceptions, c'est vrai, et des filles qui vont jouer avec des voitures. Mais n'en faisons pas une théorie, s'il vous plaît. C'est n'importe quoi. Mais ça fait partie des fables que les hommes ont envie d'entendre, de monter. Et au niveau du Conseil de l'Europe, je vous assure que c'est devenu sacrément costaud là-haut. Hein. Tous ceux qui nous dirigent, c'est en train d'arriver dans la législation, hein. Et à un moment, en tant que chrétien, ça va être horriblement compliqué d'exercer notre métier avec la conviction qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on n'arrivera plus à rentrer. On sera une pièce de puzzle qui ne rentrera dans plus rien du tout. Encore tout récemment, une autre claque. La fable du droit pour la femme à disposer de son corps. J'ai vu une pub passer, c'est pas à la télé, hein, mais maintenant vous regardez n'importe quoi sur Internet, il y a sans arrêt des pubs qui viennent se mettre. Vous avez dû remarquer ça aussi. Et j'ai vu cette pub qui m'a vraiment choqué. Une femme qui explique qu'elle a le droit de disposer de son corps et que l'enfant qu'elle porte, elle a le droit de mettre fin à ses jours. Hein, c'est l'avortement. Au nom de cette fable du droit à disposer de son corps, alors elle n'est pas tenue de continuer de vivre avec ce bébé qu'elle a dans le ventre. C'est fou, hein. On pourrait parler aussi de la fable de la liberté religieuse devant une laïcité, je l'ai dit tout à l'heure, devant une laïcité qui devient presque une religion d'État. Ainsi, les crèches disparaissent. Plus vieux que ça, la fable de l'évolution devant un créationnisme ridiculisé. Maintenant, dans les manuels scolaires, il n'y a plus que l'évolution. Et certains profs, hein, c'est courant, tournent à la dérision l'histoire d'Adam et Ève. Ils commencent, en général, moi je me souviens, ma prof de sciences nat à l'époque, ben, parlait d'Adam et Ève en se moquant, en disant, bon, on va venir à quelque chose de plus sérieux. Ne mettent pas vraiment en pratique, hein, le principe de la laïcité. Ça ne marche pas dans tous les sens. Ils se devraient de respecter, ou même de ne pas en parler du tout. Et il n'y a pas longtemps, Étienne, il a parlé aussi de comment les médias ont modifié l'histoire, en parlant d'Israël, qui est toujours regardé comme un occupant. Alors que, si on va voir dans Joël 2,2, on ne va pas les lire, mais là, il est question de Dieu qui ramène tout son peuple dans son pays et qu'il demande des comptes à toutes les nations qui ont volé son pays. Parce que la réalité est tout autre. C'était le pays que Dieu avait donné à son peuple et c'est le peuple de Dieu. Alors, comme Étienne le disait, bon, c'est vrai, il y a des choses qui ne vont pas. Ils se sont pas encore convertis. Mais c'est le pays qui leur appartient. Et aujourd'hui, les médias parlent toujours d'Israël comme étant un occupant des terres voisines. Vous trouvez pas? Et ça, c'est aussi un mensonge, une fable. Alors voilà, on a parcouru pas mal de fables qui sont sacrément bien répandues dans notre société. Les médias les cultivent, toute la cinématographie la cultive, Internet cultive toutes ces fables. Au point qu'à un moment, ben nous, on va sentir, ah ouais, on est vraiment à contre-courant. On est complètement à contre-courant. La Bible est complètement à contre-courant de notre société. Mais la Bible annonce le retour de Jésus. Et à un moment, Jésus va revenir. De la même façon qu'au temps de Noé, tout le monde se mangeait, buvait, se mariait, et la vie battait son plein. Et aujourd'hui, dans notre monde, la vie bat son plein. Nous, on sait, on ne va pas être pris au piège, et j'espère que personne de nous ne le serons. On le sait. Jésus nous a donné tous ces indices, toutes ces indications. Alors, regardons-les, asseyons-nous et regardons-les. Mon but de ce matin, c'était de prendre le temps de nous asseoir et de faire un peu un bilan. Et la liste n'est pas exhaustive, hein. Vous avez sûrement d'autres idées encore. Il y en a sûrement d'autres qu'on peut trouver. J'ai pris ce à quoi moi j'ai pensé et qui me marque, mais en fonction de nos sensibilités, on peut sûrement en trouver d'autres. Mais, oui, par exemple. Eh ben oui, notre monde n'est pas beau du tout et ne va pas aller en s'améliorant. Mais je voudrais qu'on se rassure. Dans Luc 21, 28, Jésus nous a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Il y a le mot délivrance. Délivrance, ça veut dire qu'on ne va pas se sentir bien. Ça veut dire qu'on va se sentir un peu captif dans ce monde. Parce qu'on n'est pas dans notre milieu. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc forcément, en ce sens-là, on ne peut pas se sentir dans notre milieu. On est, quand on a donné notre vie à Jésus, on est né de nouveau, on est né en esprit, notre patrie, elle est là-haut. Et on ne peut pas se sentir bien dans le monde de péché. Et c'est en ce sens que notre délivrance approche. Parce qu'on va être délivré de tout ça. On va rejoindre Jésus qui va venir nous chercher. Redressez-vous et levez vos têtes. Ce matin, je ne veux pas qu'on reparte déprimé en disant « Oh purée Manu, tout ce qu'il nous a dit, c'est il n'y a rien de beau. C'est un sacré tableau, horriblement. C'est nauséabond, c'est mauvais. C'est vrai. Mais ces choses doivent arriver. » L'iniquité va aller en grandissant. Mais Jésus nous a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. Elias fait un super boulot pour gagner encore des âmes. C'est notre boulot aussi, peut-être pas de la même façon. Mais il y en a encore qui doivent être sauvés. Et il faut qu'ils partent avec nous quand Jésus va revenir. Mais il faut redresser nos têtes, relever nos têtes. Ça veut dire pas voir... C'est vrai, c'est tout noir. Mais en relevant les yeux vers Jésus, on a l'espoir. Il revient nous chercher. On ne va pas sombrer dans ce monde. On n'est pas de ce monde. Et on est une pièce de puzzle dans le monde. On a un rôle à jouer, mais on ne va pas sombrer là-dedans. Jésus nous a sauvés et notre patrie, elle est d'en haut et Jésus revient nous chercher. Alors notre délivrance approche, alors on doit se réjouir plutôt. Même si on sait que ça ne va pas être facile. Hein, dans Timothée, on l'a lu, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous vivons dans ces temps difficiles. Mais il ne faut pas que ça nous fasse déprimer, ben, ça doit nous faire relever notre tête comme Jésus nous l'a commandé, parce que notre délivrance approche. Alors, réjouissons-nous parce que notre délivrance approche. On ne sait pas dans combien de temps, mais en tout cas, ça approche. Amen. Je vais finir en priant. Merci Seigneur. Parce que tu reviens nous chercher. On ne sait pas dans combien de temps. Mais on sait que tu vas nous équiper pour supporter tout ce qu'on doit encore traverser. On ne sait pas le poids de douleur, de souffrance qu'on devra vivre. On ne sait pas si on sera persécuté comme d'autres de nos frères et sœurs dans le monde. Mais si jamais on devait l'être un jour, tu nous y auras préparé, Seigneur. Tu nous auras donné tout ce dont nous avons besoin pour le supporter, comme tu l'as fait déjà pour nos frères et nos sœurs qui vivent dans ces moments durs. Mais Seigneur, donne-nous de relever nos têtes et de nous préparer à ton retour. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Et pour l'instant, la nuit tombe, mais on peut encore. Et Seigneur, donne-nous de semer encore, pour qu'il y ait encore des âmes qui soient sauvées, qui te rejoignent. Merci de nous aider, Seigneur, de nous aider à tenir nos têtes relevées vers toi, en attendant notre délivrance. Amen.